Chapitre 14, où il est question de Carmélite. Nous avons dit qu'il y avait, au milieu de tout ce parterre de femmes, quatre ou cinq hommes seulement. Profitons de ce que la société n'est pas plus nombreuse pour nous mêler à ce bavardage de salon qui emploie d'habitude tant de paroles à dire si peu de choses. Le plus bruyant de ces cinq privilégiés du boudoir de Madame de Marande était un jeune homme que nous n'avons vu que dans de douloureuses et sinistres circonstances. C'était M. Laurédan de Valgeneuse, qui, de temps en temps, à quelque endroit du boudoir qu'il fût et avec quelque femme qu'il causa, échangeait un regard rapide comme l'éclair et d'une étrange signification avec sa sœur, Mademoiselle Suzanne de Valgeneuse, l'amie de pension de la pauvre Mina. M. Laurédan était un véritable homme de salon. Nulle bouche ne savait mieux sourire, nul regard ne savait mieux complimenter. Il avait au plus haut degré cette courtoisie qui frise l'impertinence. Et de 1820 à 1827, personne n'avait pu encore le détrôner dans l'art de mettre sa cravate et d'y faire, même tout ganté, le nœud à la mode sans en chiffonner le satin ou la batiste. Il causait en ce moment avec Madame de Marande, dont il admirait l'éventail rococo, en véritable amateur des vanelots et des bouchers de bric-à-brac. Celui qui, après Laurédan, attirait le regard des femmes, moins à cause de sa beauté et de son élégance qu'à cause de sa réputation, déjà établie par trois ou quatre succès de théâtre et par une conversation plus originale encore peut-être que spirituelle, était le poète Jean Robert. Au nombre des invitations imprimées qu'avaient fait pleuvoir autour de lui ses premiers triomphes et auxquelles il se gardait bien de répondre, deux ou trois invitations autographes de la belle Lydie, et qui voulait faire de son salon le rendez-vous littéraire, comme son mari voulait faire du sien le rendez-vous politique des grands hommes de l'époque, avaient vaincu ses scrupules. Sans être un des visiteurs les plus assidus de Madame de Marante, il était un de ses habitués, et à chaque séance qu'elle avait donnée depuis trois semaines à son ami Pétrus, il avait assisté religieusement dans le but de donner, en causant avec la charmante jeune femme, de l'animation à son portrait. Il faut dire que, cette fois encore, Jean Robert avait réussi, et que jamais le regard et le sourire de Lydie n'avaient été l'un plus brillant, l'autre plus animé. Monsieur de Marande en avait fait ce soir-là même, le portrait n'était de retour à l'hôtel que depuis deux jours, Monsieur Marande, disons-nous, en avait fait ce soir-là même son compliment à Jean Robert en le remerciant de la complaisance avec laquelle il avait abrégé pour Madame de Marande les ennuis de la pose. Jean Robert n'avait pas su d'abord si Monsieur de Marande parlait sérieusement ou raillait. Son regard, rejeté rapidement sur le visage du banquier, avait même cru un instant surprendre sur ce visage une expression ironique. Mais les yeux des deux hommes s'étaient arrêtés et fixés l'un sur l'autre avec une certaine gravité, et alors M. de Marande, en s'inclinant, avait répété ces mots. « Monsieur Jean Robert, c'est sérieusement que je parle, et Madame de Marante ne saurait me faire de plus grand plaisir que de cultiver la connaissance d'un homme de votre mérite. » Et il lui avait tendu la main si franchement que Jean Robert lui avait donné la sienne avec une franchise égale, quoique cette franchise de la part du jeune poète ne parût pas exempte d'une certaine hésitation. Le troisième personnage dont nous nous occuperons est notre introducteur Pétrus. Nous savons, lui, quel astre l'attire. Aussi, les compliments d'usage faits à Madame de Marande, à Jean Robert, à son oncle, le vieux général Herbel, qui digère dans un coin assez paisiblement pour que sa digestion lui donne un air digne et sérieux, les dames saluées en masse, a-t-il trouvé moyen, au bout d'un instant, de se trouver accoudé à la causeuse sur laquelle la belle Régina, à moitié couchée, effeuille un bouquet de violettes de Parme, bien certaine que, lorsqu'elle se sera levée et aura changé de place, les violettes décapitées par elle ne seront point perdues. Le cinquième personnage est tout simplement un danseur. Il appartient à cette race très appréciée des maîtresses de maison, mais dont la poésie, le roman et la peinture n'ont à s'occuper que comme un metteur en scène s'occupe d'un comparse. Nous avons donc dit que Loredan causait avec madame de Marande, que Jean Robert appuyait au marbre de la cheminée et les regardait, que Pétrus causait avec Régina, souriant à chaque violette qui tombait des belles mains de sa divinité, que le général comte Herbel digérait laborieusement sur un sofa, enfin que le danseur inscrivait ses contredanses avant de s'élancer chronologiquement vers sa danseuse chaque fois que l'orchestre, qui ne devait se faire entendre qu'à minuit, jetterait à l'atmosphère parfumée des salons ses notes d'appel à un nouveau quadrille. Pour être exact, il faudrait dire que le tableau que nous venons d'essayer de peindre n'avait aucune fixité. De minute en minute, on annonçait un nouveau nom. La personne désignée par le nom entrée. Si c'était une femme, madame de Marande allait au-devant d'elle, et selon le degré d'intimité où elle était avec cette femme, l'embrassait ou se contentait de lui serrer la main. Si c'était un homme, elle faisait un signe de tête, accompagnait ce signe de tête d'un gracieux sourire, et même de quelques mots, puis montrant un siège libre à une femme, la serre-galerie à l'homme, laissait les nouveaux venus devenir ce qu'ils voulaient, soit qu'il leur plût d'admirer les batailles d'Horace Vernet, les marines de Gudin, les aquarelles de Descamps, soit qu'ils aimassent mieux nouer quelques conversations particulières ou coudre un lambeau à cette sorte de conversation générale qui flotte toujours dans un salon et à laquelle s'accrochent les gens qui ne savent ni causer à deux, ni, chose bien autrement difficile, garder le silence. Quelqu'un qui eût eu intérêt à s'apercevoir de cela eût pu remarquer que, malgré tous les déplacements que l'arrivée des nouveaux venus imposait à la maîtresse de maison, quelque part que se trouvât madame de Marande, après sa révérence faite, après son baiser donné ou son serment de main accompli, monsieur Loredan de Valgeneuse avait le talent de se retrouver près d'elle. Lydie avait remarqué cette insistance, et soit qu'elle lui déplût en réalité, soit qu'elle craignît que quelque autre personne ne la remarquât, elle avait essayé d'y échapper, une première fois en venant s'asseoir à côté de Regina, et en interrompant pour quelques instants la douce conversation des deux jeunes gens, égoïsme qu'elle s'était bien vite reproché, une seconde fois en allant se réfugier sous l'aile du vieux voltairien, que nous avons vu si rigide observateur des dates dans sa conversation avec la marquise de la Tournelle. Cette fois, madame de Marande s'obstinait à vouloir tirer du cœur du vieux comte ce secret qui rendait soucieux un visage d'ordinaire souriant, plus que souriant, railleur. Mais que le chagrin du vieux comte lui vint du cœur, ou, ce qui pour lui était bien autrement grave, de l'estomac, il ne paraissait pas le moins du monde décidé à faire madame de Marande confidente de son secret. Quelques mots de leur conversation parvinrent jusqu'à Pétrus et Regina et les tirèrent de leur extase. Les deux jeunes gens échangèrent un regard. De la part de Regina, ce regard voulait dire « Nous sommes bien imprudents, Pétrus. Voilà une demi-heure que nous causons ensemble avec autant d'abandon que si nous étions dans la serre du boulevard des Invalides. » « Oui, répondit le regard de Pétrus, bien imprudent, c'est vrai, mais bien heureux, ma Regina. » Puis, comme ils avaient échangé un regard, les deux jeunes gens échangèrent, à distance, et par un simple frissonnement de lèvres, un de ces baisers que le cœur envoie au cœur. Mais comme s'il était naturellement attiré par la conversation de son oncle et de madame de Marante, Pétrus s'approcha d'eux, et le sourire de l'insouciance sur les lèvres, « Mon oncle, fit-il, en enfant gâté qui se croit le droit de tout dire, je vous préviens que, si vous ne confiez pas à madame de Marande, qui vous a fait l'honneur de vous la demander deux fois, la cause de vos soucis, par notre aïeul Jocelyn II, qu'on appelait Jocelyn le Galant, un siècle et demi avant que la galanterie fût découverte, par cet ancêtre mort au champ d'honneur de l'amour, je vous jure, mon oncle, que je vous dénonce à madame, et que je révèle la véritable cause de vos peines, si mystérieuse qu'elle soit. Révèle, garçon, dit le général, avec un certain air de tristesse, qui donna à douter à Pétrus que son oncle fût, sous la seule préoccupation d'une digestion laborieuse, révèle. Mais si tu m'en crois, avant la révélation, tu tourneras ta langue sept fois dans ta bouche, de peur de te fourvoyer. Oh, je n'ai crainte, mon oncle, dit Pétrus. Alors, dites vite, monsieur Pétrus, car je meurs d'inquiétude, reprit madame de Marande, qui, elle aussi, paraissait tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'aborder le véritable sujet de conversation qui l'avait amené là. Vous mourrez d'inquiétude, madame, dit le vieux général. Eh bien, voilà qui dépasse tout à fait ma perspicacité. Aurais-je le bonheur, par hasard, que vous eussiez quelque faveur à me demander, et craignez-vous que ma mauvaise humeur n'influe sur ma réponse? Oh, profond philosophe, dit madame de Marande, qui vous a donc révélé ainsi les secrets du cœur humain? Donnez-moi votre belle main, madame. Lydie tendit la main au vieux général après lui avoir fait la galanterie d'ôter son gant. « Quelle merveille !» dit le général, « je croyais qu'il n'y avait plus de ces mains-là. » Il l'approcha de ses lèvres, puis s'arrêtant, « Oh, par ma foi, dit-il, c'est un sacrilège que des lèvres de 66 ans touchent un pareil marbre. »« Comment ?» dit madame de Marande en minaudant, « vous refusez de baiser ma main, général ? Cette main est-elle à moi en toute propriété pour une minute ?»« En toute propriété, général. » Le général se tourna vers Pétrus. « Approche ici, garçon, lui dit-il, et baise-moi cette main-là. » Pétrus obéit. « Là. Et maintenant, prends garde, car après un pareil cadeau, je me crois parfaitement libre de te déshériter. » Et puis, à madame de Marande, « Donnez vos ordres, madame, dit le vieux comte, votre indigne serviteur les attend à genoux. » « Non, je suis femme et entêtée. Je veux auparavant savoir quelle chose vous rend si soucieux, mon cher général. Ah, vous avez ce coquin-là qui va vous le dire. Ah, madame, à son âge, je me serais fait tuer pour baiser une pareille main. Que le paradis n'est-il pas à reperdre et que ne suis-je à dents ?» Ah, « Général, dit madame de Marande, on ne peut être à la fois Adam et le serpent. Voyons, monsieur Pétrus, dites-nous ce qui est arrivé à votre oncle. »« Eh bien, madame, voici le fait. Mon oncle, qui a l'habitude de se préparer par la méditation à tous les actes importants de sa vie, a l'habitude, à cet effet, de rester seul 1 heure avant son dîner. Et je crois... » Vous croyez? Eh bien, je crois que sa chère solitude a été troublée aujourd'hui. Ce n'est pas cela, dit le général. Tu n'as tourné ta langue que 7 fois, tourne-la 14. Mon oncle, continua Pétrus sans s'inquiéter du démenti que lui donnait le vieux général, mon oncle a reçu aujourd'hui, entre 5 et 6 heures, la visite de madame la marquise Yolande Pantalet de la Tournelle. Régina, qui ne demandait qu'une occasion de se rapprocher de Pétrus et de ne pas perdre une de ses paroles, dont chaque syllabe faisait battre son cœur, Régina, en entendant prononcer le nom de sa tante, crut que c'était une occasion de prendre part à la conversation. Elle se leva donc de la causeuse et s'approcha doucement du groupe. Pétrus ne la vit pas, ne l'entendit pas, mais il la sentit venir et frissonna de tous ses membres. Ses yeux se fermèrent, sa voix s'éteignit. La jeune fille comprit, de son côté, ce qui se passait dans le cœur de son cœur, et elle en ressentit une volupté étrange. « Eh bien, dit-elle, d'une voix douce comme les vibrations d'une harpe éolienne, est-ce parce que je suis là que vous ne parlez plus, monsieur Pétrus ?»« Oh, jeunesse, jeunesse !» murmura le comte Herbel. Il s'élevait en effet tout autour de ce beau groupe un parfum de jeunesse, de santé, de bonheur et de gaieté qui parvint à dérider le vieux général. Au regard qu'il jeta sur Pétrus, on eût dit qu'il pouvait d'un mot faire évanouir tout cela, mais qu'il avait pitié, tout égoïste qu'il était, de souffler sur ce beau palais de nuages où habitait son neveu. Il lui prêta donc le flanc, au contraire. « Va, garçon, va, dit-il, tu brûles !» « Eh bien, puisque mon oncle le permet, » continua Pétrus, forcé de persister dans son récit de rapin, « je vous dirai que madame de la Tournelle, comme toutes les marquises, a un carlin, ou plutôt une carline, qu'on appelle Croupette. »« Un nom charmant, » dit madame de Marande, « je ne connaissais pas le nom, mais je connaissais le carlin. » « Alors, continua Pétrus, vous pourrez apprécier la vérité du récit. Il paraît que ce carlin, ou plutôt cette carline, sent le musc d'une façon extravagante. Y suis-je, mon oncle ? Tout à fait, dit le vieux général. Il paraît encore que l'odeur du musc a la propriété de faire tourner les sauces. Et comme Mademoiselle Croupette est très gourmande, que chaque fois que Madame de la Tournelle vient voir mon oncle, Mademoiselle Croupette va voir le cuisinier. J'oserais parier que mon très cher oncle a eu aujourd'hui un dîner détestable, et que voilà ce qui le rend si sombre et si mélancolique. Bravo, garçon. Il est impossible d'être meilleur devin. Et cependant, si je voulais bien chercher, moi, ce qui te rend si gai et si distrait, je crois que je rencontrerais plus juste encore. Mais j'ai hâte de savoir ce que cette belle sirène veut de moi, et je remettrai l'explication à un autre jour. Et puis, se tournant vers Madame de Marande, vous disiez, madame, avoir quelque chose à me demander. J'attends. Général, dit Madame de Marande, regardant le vieillard avec ses plus doux yeux, vous avez eu l'imprudence de dire plusieurs fois que, pour mon service personnel, votre bras, votre cœur, votre tête, en un mot, tout ce dont vous aviez la libre disposition et le libre usage, était à moi. Vous m'avez dit cela, n'est-ce pas vrai? C'est la vérité, madame, répondit le comte avec cette galanterie qu'en 1827 on ne rencontrait déjà plus que chez les vieillards. Je vous ai dit que n'ayant pas eu le bonheur de vivre pour vous, j'aurais une grande joie à y mourir. Et vous êtes toujours dans cette louable disposition, général? Plus que jamais. Eh bien, voici une occasion, je vous jure, de me le prouver. Votre occasion n'eût-elle qu'un cheveu, madame, je vous promets de la saisir par là. Écoutez-moi donc, général. Je suis tout oreille, madame. Ah, c'est justement de cette partie de votre personne que je vous demande l'aliénation momentanée en ma faveur. Que voulez-vous dire? J'ai besoin de vos oreilles pour toute la soirée, général. Oh, que ne le disiez-vous tout de suite, belle dame, voyons, donnez-moi une paire de ciseaux, et je vous en fais l'holocauste sans peur, sans regret et même sans reproche, à la seule condition qu'après mes oreilles, vous ne me demanderez pas mes yeux. Oh, général, dit Madame de Marante, rassurez-vous, il n'est pas question de les détacher du tronc où elles me semblent admirablement placées. Il s'agit tout simplement de les tendre du côté que je vous indiquerai pendant 1 heure et avec une attention soutenue. En d'autres termes, général, je vais avoir l'honneur de vous présenter une de mes amies de pension, des meilleures, une jeune fille que Regina et moi nous appelons notre sœur. C'est vous dire qu'elle est digne de tous vos égards, comme elle est digne de toute notre amitié. Cette jeune fille est orpheline. Orpheline, répéta Jean-Robert, ne venez-vous pas de dire, madame, que vous et madame la comtesse de Rapt étiez ses sœurs? Madame de Marande remercia Jean-Robert d'un sourire et continua. Elle est orpheline de père et de mère. Son père, brave capitaine de la garde, officier de la Légion d'honneur, a été tué à Champaubert en 1814. Voilà comment elle fut élevée avec nous à Saint-Denis. Sa mère est morte dans ses bras il y a 2 ans. Elle est pauvre. Elle est pauvre, répéta le général. Ne venez-vous pas de dire, madame, qu'elle avait 2 amis? Pauvre et fière, général, continua Madame de Marande, et elle veut demander à l'art une existence que lui refuseraient ses travaux d'aiguille. Et puis elle a une immense douleur, non pas à oublier, mais à endormir. Une immense douleur. Oui, la plus grande, la plus profonde douleur que puisse contenir le cœur d'une femme. Maintenant, général, vous savez cela, et vous lui pardonnerez la tristesse de son visage, et vous écouterez sa voix. Et, demanda le général, le pardon de la question, elle est moins indiscrète qu'elle ne le semble au premier abord. Dans la carrière à laquelle votre amie se destine, la beauté n'est point une chose inutile. Et votre amie est-elle belle? Oh, comme la Niobé antique à 20 ans, général. Et elle chante? Je ne vous dirai pas comme la Pasta, je ne vous dirai pas comme la Malibran, je ne vous dirai pas comme la Catalini, je vous dirai comme elle-même. Non, elle ne chante pas, elle pleure, elle souffre, elle fait pleurer et souffrir. Et quelle voix? Un magnifique contralto. S'est-elle déjà fait entendre en public? Jamais. Pour la première fois, ce soir, elle chantera devant 50 personnes réunies. Et vous désirez?
Je désire, général, que vous qui êtes un dilettante consommé, et surtout un admirable connaisseur, je désire que vous l'écoutiez de toutes vos oreilles, et que, quand vous l'aurez entendue, vous fassiez pour elle ce que vous feriez pour moi en pareille occasion. Je désire, si vous permettez que je me serve de vos propres expressions, que vous viviez pour notre bien-aimée Carmélite. N'est-ce pas, Regina, que vous n'ayez pas un moment de vos jours qui ne lui soit exclusivement consacré. Je désire, en un mot, que vous vous déclariez son chevalier, et qu'à partir de cette heure, elle n'ait pas de défenseur plus ardent et d'admirateur plus passionné que vous. Je sais que votre avis fait loi à l'opéra, en général.
Oh, ne rougissez pas, mon oncle, c'est connu, dit Pétrus.
Je désire, reprit madame de Marans, que vous répétiez ce nom de mon ami Carmélite à tous les échos que vous avez pour amis. Non pas que je veuille, présentement, du moins, la faire engager à l'opéra. Mes prétentions ne vont pas si loin, mais comme c'est de votre loge, de la loge infernale, ajouta Pétrus. Oh, dites le mot, madame.
Soit. Comme c'est de la loge infernale que partent toutes les trompettes de la renommée, comme c'est dans la loge infernale que s'échafaudent toutes les gloires futures ou que se démolissent toutes les gloires présentes, je compte sur votre vraie et dévouée amitié générale pour chanter les louanges de Carmélite dans tous les lieux que vous daignerez hanter, au club, aux courses, au café anglais, chez Tortoni, à l'opéra, aux Italiens, et je dirais même au château, si votre présence dans mon réduit n'était la plus haute protestation de vos sympathies politiques. Promettez-moi donc de lancer, n'est-ce pas le mot consacré, ma belle et triste amie aussi loin et aussi vite que vous pourrez. Je vous en aurai, général, une reconnaissance éternelle.
Je vous demande un mois pour la lancer, belle dame, 2 mois pour la faire engager et 3 mois pour la faire entendre, à moins qu'elle ne veuille débuter dans un opéra nouveau, auquel cas ce sera l'affaire d'un an.
Oh, elle débutera dans tout ce que l'on voudra, elle sait le répertoire français et italien.
En ce cas, dans 3 mois, je vous amène votre amie couverte de lauriers, des pieds à la tête.
Alors, c'est que vous partagerez les vôtres avec elle, général, dit madame de Marans, en tendant sa main et en serrant cordialement celle du vieux comte.
Et moi aussi, général, fit une douce voix qui fit tressaillir Pétrus. Moi aussi, je vous en aurai une reconnaissance infinie.
Je n'en doute pas un instant, princesse, dit le vieillard qui, par courtoisie, continuait de donner à la comtesse Trapt son titre de jeune fille et qui, en répondant qu'il ne doutait pas de la reconnaissance de Regina, avait regardé son neveu.
Eh bien donc, reprit-il en se retournant vers madame de Marans, il ne vous reste, madame, qu'à me faire l'honneur de me présenter à votre ami comme son plus dévoué serviteur.
Oh, ce sera bien facile, général, elle est là.
Comment, là?
Oui, là, dans ma chambre à coucher.
J'ai voulu lui épargner l'ennui,
oh, c'est toujours ennuyeux pour une jeune femme, de traverser tous ces salons et de se faire annoncer. Voilà pourquoi nous sommes ici en petit comité. Voilà pourquoi sur certaines de mes invitations il y avait 10 heures et sur d'autres minuit. Je voulais faire à Carmélite un cercle d'amis choisis et indulgents.
« Je vous remercie, madame, dit Loredan, en trouvant un prétexte pour se mêler à la conversation. Je vous remercie de m'avoir mis au nombre des élus, mais je vous en veux de me croire assez peu important pour ne pas me recommander votre ami. »
Oh, dit madame de Marande, vous êtes trop compromettant, monsieur le baron, pour qu'on vous recommande une jeune et belle personne de 20 ans. D'ailleurs, la beauté de Carmélite la recommandera suffisamment près de vous.
Oh, le moment est mal choisi, madame, et je vous proteste qu'à cette heure, une seule beauté a le droit...
Pardon, monsieur, fit une voix avec la plus grande douceur et la plus exquise politesse, tout en interrompant le baron. J'aurai un mot à dire à madame de Marande.
Loredan se retourna en fronçant le sourcil, mais reconnaissant monsieur de Marande lui-même, qui, le sourire sur les lèvres, tendait le bras à sa femme, il s'effaça vivement.
Vous avez quelque chose à me dire, monsieur? Demanda madame de Marande en pressant avec affection le bras de son mari. Dites.
Et puis se retournant, « Vous excusez, général. » Heureux qui a de pareils droits, répondit le comte Herbel. Que voulez-vous, général, dit en riant madame de Marande, ce sont les droits du seigneur. Et elle se retira doucement du cercle, appuyée sur le bras de son mari. Me voici à vos ordres, monsieur. En vérité, je ne sais comment vous dire cela. C'est une chose que j'avais complètement oubliée et que par bonheur je viens de me rappeler. Dites. Monsieur Thompson, mon correspondant des États-Unis, m'a recommandé un jeune homme et une jeune femme de la Louisiane qui ont une lettre de crédit pour moi. Je leur ai fait donner une carte d'invitation pour votre soirée et voilà que j'ai oublié leur nom. Eh bien, je m'en rapporte à votre sagacité pour reconnaître deux visages étrangers et à votre courtoisie pour recevoir gracieusement deux personnes recommandées par M. Thompson. Voilà, madame, tout ce que j'avais à vous dire. Comptez sur moi, monsieur, dit avec un charmant sourire madame de Marande. Merci. Maintenant, laissez-moi vous faire tous mes compliments. Vous êtes toujours en beauté, madame, mais ce soir vous êtes véritablement splendide. Et, baisant galamment la main de sa femme, M. de Marande la conduisit jusqu'à la porte de sa chambre à coucher, dont Lydie souleva la portière en disant « Quand tu voudras, Carmélite !»